Saint François d'Assise. Livre premier, le bâtisseur d'église. Le convalescent. Un matin, il y a de cela 700 ans, dans la ville d'Assise, un jeune homme qui commençait à renaître d'une longue et grave maladie s'éveilla de son sommeil de la nuit. Les volets de la fenêtre de sa chambre étaient encore fermés, mais au dehors, malgré l'heure matinale, la lumière était déjà très vive et depuis longtemps déjà, la cloche avait sonné pour la première messe à l'église Notre-Dame de l'Évêché, exactement vis-à-vis. Un puissant rayon de soleil pénétrait même jusque dans la chambre close par la fente des volets. Ce rayon matinal, le jeune homme le connaissait bien. Chaque jour, il l'avait vu à son réveil, durant les semaines de sa convalescence. Bientôt, sa mère allait venir, allait ouvrir les volets, et la lumière du dehors allait affluer dans sa chambre avec une intensité éblouissante. Après quoi, on lui apporterait son déjeuner et on ferait son lit, car il avait coutume de se transporter sur l'autre côté du large lit pendant que l'on remettait en ordre le côté où il avait couché. Et puis, il pourrait rester étendu là, un peu faible et fatigué encore, mais heureux, et considérer le beau ciel d'automne, bleu et sans nuages, et écouter le bruit que feraient en tombant sur le pavé de la rue les eaux sales renversées par les habitants des maisons voisines. Plus tard, ce serait le soleil lui-même qui se montrerait, projeté d'abord sur le mur de droite, puis au milieu de la chambre sur les dalles de pierre. Et lorsque sa pleine lumière attendrait le lit, le moment arriverait du repas de midi. Ce repas achevé, on viendrait de nouveau fermer les volets, et dans la demi-obscurité douce et recueillie de la chambre, le jeune homme ferait une sieste. À son réveil ensuite, lorsqu'on lui rendrait la lumière, le soleil aurait disparu de la fenêtre, mais en se redressant dans son lit, le convalescent pourrait voir au loin, par-delà l'immense vallée, les montagnes se voilaient de fines ombres bleues, et puis bientôt après, s'enflammer de la rougeur sanglante des soirées d'automne. Et pendant que, très rapidement, la nuit descendrait, il entendrait le bruit familier des moutons ramenés, en bêlant dans leurs étables, et les chansons ou les rires des bergers revenant des champs. Avec quel plaisir chaque soir il les avait écoutés, ces exquises et touchantes chansons populaires ombriennes qui aujourd'hui encore, là-bas, voltigent sur les lèvres du peuple et dont les notes lentes, étrangement expressives, remplissent l'âme d'une tristesse mêlée de douceur. Puis, tous les chants s'éteindraient et ce serait la nuit. Au-dessus des monts lointains surgirait tout d'abord une seule grande étoile, et son apparition marquerait le temps de fermer les volets et d'allumer dans la chambre cette veilleuse que le malade s'était habitué à laisser brûler jusqu'à l'aube durant les interminables nuits de fièvre où d'affreux cauchemars harcelaient son sommeil. Ce matin-là, cependant, le jeune homme se le rappela tout d'un coup, les choses n'allaient point se passer de la même façon, car c'est aujourd'hui qu'il avait projeté de se lever pour la première fois. Et combien il se réjouissait à l'idée de pénétrer dans les autres chambres de la maison, de revoir et toucher tous ces objets dont il avait été longtemps privé et qu'il avait failli perdre pour toujours. Il était bien résolu aussi à descendre au rez-de-chaussée, dans la boutique paternelle, pour voir entrer les clients et peut-être déjà pour donner un coup de main aux commis occupés à déployer ou à honner les lourdes pièces de velours, de brocart ou de beaux draps toscans. Or, pendant que ainsi le jeune homme s'abandonne à ses plus beaux rêves, la porte s'ouvre. C'est, de même que tous les autres matins depuis le commencement de sa maladie, c'est sa mère qui entre. Et lorsqu'elle a écarté les volets, il constate avec joie que, en plus du déjeuner, elle lui a apporté un paquet d'étoffes. « J'ai fait faire pour toi un costume nouveau, mon Francesco, » dit-elle en déposant le paquet au pied du lit. Et puis, quand il a fini de manger, elle se penche à la fenêtre pendant qu'il s'habille. « Quelle belle matinée, » dit-elle, « comme le soleil est clair. Je distingue toutes les maisons de Bétona, comme si la vallée qui nous sépare s'était resserrée. » Et à mi-chemin, dans les vignes, Isola Romanesca a toute l'apparence d'une île véritable, au milieu d'un fleuve. Et de toutes les cheminées montent, droits et nets, de petits nuages de fumée, comme de l'encensoir tout à l'heure à l'église. Ah, mon Francesco, par des matins tels que celui-ci, il me semble que le ciel et la terre sont beaux comme une église au jour de fête, et que toute la création s'unit pour louer et remercier Dieu. » À ces paroles, Francesco n'a rien répondu. Mais bientôt, il murmure, déjà habillé de son costume neuf, « Mon Dieu, comme je me sens faible !» Tout de suite, la mère change de ton et de sujet. C'est toujours ainsi quand on a été malade, s'empresse-t-elle de dire. Aussi longtemps qu'on reste couché, on s'imagine que l'on pourrait tout faire. Mais dès que l'on a mis les pieds hors du lit, on s'aperçoit de sa faiblesse. « Je connais bien cela, va, mon enfant, pour l'avoir éprouvé moi-même. Et c'est à cause de cela que j'ai eu bien soin aussi de t'apporter une canne. » Elle va prendre sur le palier une belle canne vernie avec une poignée d'ivoire. Et bientôt le fils, au bras de sa mère, sort de sa chambre de malade. Depuis une demi-heure, François seul a franchi le seuil de la maison paternelle. La mère et lui, d'abord, ont fait le tour de toutes les chambres. Ils sont entrés dans la boutique où tous les commis cordialement et gaiement les ont salués. « Bonjour, Madame Picard. Bonjour et bonne santé, jeune Seigneur Francesco. » Mais ensuite, François a senti le besoin d'aller plus loin encore que les chambres et la boutique, d'aller au dehors, pour saluer à son tour les champs et les vignes, et le ciel libre, et la perspective de la vaste et fertile vallée. Maintenant, le voici debout, en dehors de la porte d'Assise, sur le chemin qui, au pied du mont Subasio, conduit à Foligno. Il se tient là, debout, appuyé sur sa canne et regarde. Tout devant lui, c'est un champ de vignes. Les pampres se glissent d'un arbre à l'autre et de lourdes grappes bleues pendent sous les larges feuilles. Bientôt va venir la belle saison des vendanges et de la mise du vin dans les caves. Plus bas, sur la descente rapide, commencent les champs d'oliviers qui se déploient par toute la vallée et la couvrent comme d'un tapis de soie d'un gris argenté. Ça et là, sous le voile des nuages, brillent des maisons blanches, dont les plus éloignées semblent à peine de la grosseur de petites pierres. Et François regarde tout cela. Et cependant, chose singulière, ne le voit pas. Ce débordement de joie qu'il ressentait naguère au spectacle des douces couleurs du paysage et de la fine arête des monts contre le ciel bleu a disparu de lui. C'est comme si ce cœur, qui jusqu'alors avait battu jeune et fort dans sa poitrine, était tout à coup devenu très vieux. Et il a l'impression que jamais plus rien au monde ne lui plaira à voir. Le soleil lui paraît trop chaud, et il va se placer dans l'ombre d'un mur. Mais l'ombre, à son tour, lui paraît trop froide, et de nouveau il retourne se chauffer au soleil. La descente qu'il vient de faire lui a fatigué les genoux. Et il a faim aussi, et se surprend à rêver d'un bon dîner avec un bon verre de vin. Et une terreur l'envahit à l'idée que sa jeunesse est passée, que les choses dont il s'imaginait qu'elles le réjouiraient toujours ont fini. Désormais, de le réjouir, que tout ce qu'il a tenu pour un trésor qui ne pourrait jamais lui être enlevé, l'éclat du soleil, le ciel bleu, les campagnes vertes, tout ce à quoi, durant les jours et les nuits sans fin de sa convalescence, il a aspiré aussi amèrement qu'un roi proscrit à son ancien royaume, que tout cela maintenant lui étant rendu, se change sous ses mains en néant, se brise et se réduit en cendres. De même que les palmes d'Hosanna du dimanche des rameaux sont brûlées pour devenir des cendres que le prêtre, le premier jour du carême, répand sur les têtes des chrétiens avec ces mots si tristement vrais. Souviens-toi, ô homme, que tu n'es que poussière. Poussière, poussière, tout n'est que poussière et cendre, corruption et mort, vanité des vanités. Longtemps François se tient debout, ainsi, le regard perdu dans le vide. C'est comme s'il voyait toute l'existence se flétrir devant ses yeux. Puis lentement, il se retourne et, s'appuyant sur sa canne, revient vers Assise. Ce jour est venu pour lui, dont le Seigneur nous dit « Je sèmerai ta route d'épines ». Ce jour où une main mystérieuse inscrit sur le mur de la salle du festin des paroles de mort. Mais de même que tous ceux qui se trouvent au début de leur conversion, le jeune homme ne se souvient pas moins des fautes d'autrui que des siennes propres. Car après s'être aperçu du changement qui s'est produit en lui, tout de suite sa pensée s'en va vers ses amis, avec lesquels bien souvent il est venu là et s'est arrêté pour contempler l'admirable spectacle. Comme ils sont insensés dans leur amour des choses passagères, se dit-il avec un certain sentiment de supériorité, tandis qu'il s'apprête à reprendre le chemin de la maison paternelle. Chapitre 2. L'enfance et la jeunesse. François avait alors un peu plus de 22 ans. Il était le fils aîné de l'un des hommes les plus riches d'Assise, le marchand drapier Pierre di Bernadone. La famille n'était pas originaire d'Assise. Le père de Pierre Bernadone, ou le grand Bernard, était venu de Luc, où il appartenait à une importante famille de tisserands et de marchands drapiers, les Moriconi. Et quant à la mère de Francesco, Dame Pica, celle-là provenait de bien plus loin encore, car c'est dans la belle Provence, riche en légendes, que Ser Pietro l'avait rencontrée, sans doute au cours de l'un de ses voyages commerciaux. Et c'est de là qu'il l'avait emmenée, comme sa fiancée, vers la petite cité italienne accrochée au flanc du mont Subasio. Cette cité est l'une des plus vieilles de l'Italie. Ptolémée déjà mentionne la ville d'Escision. Et c'est dans cette ville que l'an 46 avant Jésus-Christ est né le poète latin Properce. Le christianisme a été ensuite apporté dans la région par Saint Christopolitus ou Christopoldo, qui aurait été, d'après la légende, un disciple immédiat de Saint Pierre, tout de même que ce Saint Britius, évêque de Spolète, qui, sur l'ordre du prince des apôtres, en l'an 58, aurait consacré Saint Crispoldo, évêque de Vétona, la Bétona d'aujourd'hui, en lui confiant la direction spirituelle de tout le district, compris entre Foligno au sud et Nocera au nord. Crispoldo, en tout cas, paraît bien avoir subi le martyr pendant les persécutions de Domitien, et un sort pareil est échu plus tard à trois autres des missionnaires de l'Ombrie, les saints Victorin, mort vers 240, Savin, mort en 303, et Ruffin, qui fut plus particulièrement l'apôtre d'Assise. C'est en l'honneur de ce dernier saint qu'a été élevé à Assise, vers le milieu du XIIe siècle, sur les dessins de Jean de Goupio, la belle basilique romane de Saint-Ruffin, qui, dès son achèvement, est devenue la cathédrale de la ville, en remplacement de l'antique église consacrée à la Vierge, plus bas, près de l'évêché Santa Maria del Vescovado. Et dans cette vieille église cathédrale de Saint-Ruffin, se voient aujourd'hui encore les fonts baptismaux romans, sur lesquels, un certain jour de septembre de l'année 1182, le 26 de ce mois, dit-on, le fils premier-né de Messire Pierre et de Dame Pica a reçu le baptême. Une tradition, mais qui ne remonte pas plus haut que le 15e siècle, prétend savoir que, parvenue au terme de sa première grossesse, Dame Pica eut beaucoup à souffrir sans pouvoir accoucher. Mais voici qu'un pèlerin frappa à la porte de la maison et dit à la servante venue pour lui ouvrir que la délivrance n'aurait lieu que lorsque la femme en couche aurait été transportée de sa chambre somptueuse dans l'étable de la maison et déposée là sur la paille dans une des stalles. Ce qui fut fait. Et à peine avait-on fini d'installer la malade, que celle-ci fit entendre le cri angoissé de la délivrance et mit au monde un fils dont il se trouva, ainsi que la première couche, comme jadis celle du Sauveur, fut un lit de paille dans une étable. Barthélemy de Pise, qui écrivait à la fin du XIVe siècle et dont le Liber Conformitatum était précisément tout employé à découvrir des ressemblances entre saint François et Jésus-Christ, n'a fait aucune mention de cette histoire, qui cependant aurait eu merveilleusement de quoi entrer dans le cadre de son livre. D'autre part, Benozzo Gozzoli, en l'an 1452, sur les murs de l'église Saint-François de Montefalco, a représenté le saint naissant dans une étable. Et Cédulius, auteur d'une Historia Seraphica, imprimée à Anvers en 1613, nous raconte qu'il a vu lui-même à Assise l'étable sudite transformée désormais en chapelle. Aujourd'hui encore, cette chapelle peut se voir à Assise. Elle porte le nom de San Francesco il Piccolo, le petit Saint François. Et au-dessus de la porte, on lit gravé l'inscription suivante, en latin. Cette chapelle a été l'étable du bœuf et de l'âne dans lequel est né François, le miroir du monde. La chapelle se trouve non loin de l'endroit où s'élevait la maison familiale de saint François et où, depuis le XVIIe siècle, la Chiesa Nuova dresse ses murs, modèle parfait du style baroque. Les bollandistes ont supposé que la chapelle pouvait avoir été une partie de l'ancienne maison de Pierre di Bernardone, où François en effet serait né, mais où la famille aurait ensuite cessé de demeurer, pendant l'enfance du saint. Et il est possible aussi que la légende ait été inspirée simplement par le nom de la chapelle, le petit saint François. Du même caractère légendaire que cette naissance dans une étable est une autre tradition qui nous a été rapportée par Vadim. D'après elle, ce pèlerin qui aurait donné le conseil de la translation dans l'étable se serait trouvé aussi dans la cathédrale voisine au moment du baptême de l'enfant. Tout de suite après la naissance, il aurait tenu le petit François sur les fonts. On garde aujourd'hui dans l'église Saint-Ruffin une pierre où se voient des empreintes ressemblant à des traces de pieds. Et le sacristain qui montre cette pierre aux visiteurs affirme que c'est sur elle que s'est tenu pendant le baptême de Saint-François le sudit pèlerin, ou plutôt l'ange qui avait pris la forme d'un pèlerin. Le noyau autour duquel se sont constituées ces traditions est, sans aucun doute, un récit qui se trouve déjà dans l'un des anciens manuscrits de la légende des trois compagnons. Le manuscrit raconte qu'au retour du baptême de l'enfant nouveau-né, un pèlerin est venu frapper à la porte de la maison et a exprimé le désir de voir l'enfant. La servante qui lui a ouvert s'est naturellement refusée à satisfaire ce désir, mais l'étranger a déclaré qu'il ne s'en irait point avant d'avoir vu ce qu'il voulait voir. Et comme Messie Pierre était absent, c'est à la dame de la maison que la servante est venue rapporter le fait. Sur quoi, au grand étonnement de tous, Dame Picard a ordonné que l'on satisfît le désir du pèlerin. L'enfant a donc été amené dans la rue où se tenait l'étranger, et celui-ci, dès qu'il l'a aperçu, l'a saisi dans ses bras, comme autrefois le vieux Siméon l'avait fait pour Jésus l'enfant, et s'est écrié « Aujourd'hui, dans cette rue, deux enfants sont nés, dont l'un, à savoir le garçon que voici, deviendra l'un des hommes les meilleurs du monde, tandis que l'autre en deviendra l'un des pires. » Barthélemy de Pise ajoute encore que le pèlerin a fait un signe de croix sur l'épaule gauche de l'enfant et a recommandé à la nourrice de celui-ci d'en prendre bien soin, car le diable ferait de son mieux pour s'en rendre maître. Puis, ayant dit cela, l'étranger a disparu et personne jamais ne l'a plus revu. Au baptême, le fils de Messire Pierre avait reçu le prénom de Jean. Le père se trouvait alors loin d'Assise, ayant entrepris un nouveau voyage en France. Et à son retour, ce fut lui qui décida de changer le prénom de son premier-né pour l'appeler François au lieu de Jean. Ce prénom de François était très rare jusqu'à cette époque, mais il n'était pas absolument nouveau. Dans le plus proche voisinage même d'Assise, un chemin s'appelait Via Francesca. Un chemin qui menait de l'église Saint-Sauveur des Murs, aujourd'hui Casa Gualdi, à la partie occidentale de la ville et aboutissait près de Saint-Damien. Le nom de ce chemin est en effet mentionné dans une bulle signée par le pape Innocent III le 26 mai 1198, c'est-à-dire à une date où le futur Saint-François n'avait encore que 15 ans, et certainement n'avait point mérité que le chemin fût ainsi appelé d'après son propre nom. On a émis diverses hypothèses sur les motifs qui ont décidé Pierre de Bernardone à changer le prénom de son fils. L'un de ces motifs, assurément, aura été l'amour du marchand, tout frais revenu de Provence, pour la France. Le père aura désiré que son fils, né d'une mère française, devint un véritable Français de nature et de mœurs. Peut-être aussi Pierre aura-t-il, jusqu'à un certain point, voulu protester contre le prénom choisi par sa femme. Car Saint Bonaventure nous dit expressément que c'est Dame Picard qui a choisi pour son fils le prénom de Jean. Non pas un Jean-Baptiste vêtu de poils de chameau, mais un élégant et habile et aimable Français. Voilà peut-être à quel désir aurait répondu le changement du prénom, si c'est bien par le fait du père qu'il s'est produit. Mais d'autres prétendent que le nom du Français n'a été donné au fils de Messire Pierre que déjà durant son adolescence et à cause de la façon dont il possédait la langue française. Façon qui d'ailleurs n'avait rien d'extraordinaire, car nous savons que Saint François n'est jamais parvenu à parler la langue française tout à fait correctement. En tout cas, le jeune homme doit s'être familiarisé avec cette langue dès son enfance. Il a également appris le latin. Cette partie de son éducation a été confiée au prêtre de l'église Saint-Georges, voisine de la maison du drapier. Le premier biographe du saint, Thomas de Celano, nous a laissé un tableau très peu attrayant de l'éducation des jeunes garçons de ce temps. Il nous raconte que ceux-ci, à peine sevrés, étaient déjà instruits par d'autres garçons plus âgés, non seulement à dire, mais même à faire des choses inconvenantes, ajoutant que par respect humain, aucun d'eux n'osait se conduire honorablement. Il va sans dire que des racines aussi mauvaises ne pouvaient point produire un arbre sain et bon. À une enfance corrompue succédaient des années de jeunesse toutes remplies de débauches. Le christianisme, pour ces jeunes gens, n'était plus rien qu'un nom, et toute leur ambition se bornait à paraître pire encore qu'ils n'étaient en réalité. Mais Thomas de Celano était un poète et un rhéteur, de sorte qu'il ne nous est point facile de savoir quel poids nous devons attacher à ses affirmations. Peut-être les aura-t-il fondées simplement sur le souvenir de ce qui se passait dans son propre pays d'enfance, Celano, petite ville des Abruzzes. Et parmi les anciens biographes, le seul qui nous parle de ce sujet, Julien de Spire, n'a fait que copier le frère Thomas. De très bonne heure, ainsi que c'est encore l'usage aujourd'hui en Italie, François a commencé à aider son père dans la boutique familiale. Tout de suite, il a montré d'excellentes dispositions pour le commerce. Plus avide et rusé encore que son père, nous dit de lui à ce point de vue le sudit Julien de Spire. C'était un marchand intelligent et adroit, à qui ne manquait qu'une seule des vertus commerciales, mais en vérité l'une des plus importantes. Loin d'être économe, le jeune François se montrait follement prodigue. Pour comprendre les causes de cette prodigalité, il est indispensable de considérer le temps où s'est déroulée l'adolescence du fils du marchand drapier. C'était la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, ou en d'autres termes, le plein épanouissement de la chevalerie. Toute l'Europe avait pour idéal le chevalier et la vie chevaleresque telle qu'elle se déployait dans les cours d'amour provençal et chez les rois normands de Sicile. En Italie, les petites cours d'Est, de Vérone et de Montferrat rivalisaient avec les républiques de Florence et de Milan, à qui pourraient organiser les plus magnifiques tournois et courses de lance. Les plus illustres troubadours français, Rimbaud de Vauqueyras, Pierre Vidal, Bernard de Vintadour, Pérol d'Auvergne, parcouraient la péninsule en tournée incessante de cours en cours et de fête en fête. Partout retentissaient les chansons de Geste, Fabliau et Sirvente de Provence. Partout l'on écoutait avidement les exploits du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Et jusque dans les plus petites villes étaient instituées des corties ou cours galantes consacrées à la Gaia, Scienza, la gaie science. Et le fils français de Pierre de Bernardone se trouvait comme prédestiné à subir l'influence de ce mouvement, car il n'était pas seulement, ainsi que son père, l'Italien économe et de peu de désir à qui il suffisait de gagner de l'argent. Avec le vif et ardent sang provençal qui coulait dans ses veines, il voulait obtenir du plaisir par son argent, échanger l'or contre le luxe et la joie. Si bien que François, le jeune homme le plus riche de la ville, en devint aussi tout naturellement le premier viveur, comme l'on dit aujourd'hui. Thomas de Celano nous apprend que s'il était adroit à gagner de l'argent, il mettait une vanité extrême à le dépenser. Rien d'étonnant que très vite il ait réuni autour de lui un cercle d'amis, et non seulement parmi les jeunes gens d'Assise, mais encore parmi ceux des cités environnantes, car, nous le verrons par la suite, visiter un de ses amis de jeunesse jusque dans Gubbio à une distance considérable de sa ville natale. Comme l'ont toujours fait les jeunes gens de cette espèce jusqu'à nos jours, ces jeunes viveurs d'Assise consacraient leur loisir à s'offrir de plantureux repas, mangeant bien et buvant mieux encore. Après quoi, mis en belle humeur, il parcourait les rues de la ville en chantant très haut, et la nuit s'amusait à troubler le repos des paisibles bourgeois. Le rigoureux frère mineur de Celano nous énumère les péchés de cette folle jeunesse. Plaisantait, nous dit-il, débitait des sottises, chantait et allait vêtu d'habits moelleux et soyeux. Je me souviens d'un jour de mai, il y a quelques années, à Subiaco, dans les monts Sabins. Je venais de visiter le Sagro Spesso, la fameuse grotte de Saint-Benoît, et le couvent de Saint-Scolastique. Vers midi, j'étais entré dans une osteria sur mon chemin pour déjeuner avant de reprendre le train pour Rome par Mandela. Mon repas me fut servi dans une tonnelle disposée sur un rocher abrupt et d'où j'apercevais entre les roseaux formant la tonnelle les fêtes d'un jardin de figues avec leurs larges feuilles que dorait le soleil. Et plus loin, par-delà les figuiers, je découvrais la vallée où l'agneau, avec son écume d'argent, se précipitait parmi les rochers gris-bleus, tandis que plus loin encore se dressait la ville de Subatio, avec ses orgueilleuses tours et flèches, comme une forteresse du sommet d'une montagne. Dans ce milieu à la fois gai et fier, plein de fraîcheur et de majesté, un groupe de jeunes gens était venu déjeuner en commun. Sous la véranda découverte, d'où la vue dominait la magnifique vallée, il s'était fait dresser une longue table. Je voyais la nappe merveilleusement blanche, les imposantes fiaschis, les verres remplis de vin rouge et l'agitation des garçons de l'osteria courant çà et là avec d'énormes plats de macaronis. Et les rires et les chants ne s'arrêtaient point, mais sans jamais se transformer en des cris déréglés. Et puis, l'un après l'autre, les jeunes gens se levaient, prononçaient un discours, et entre chaque discours une sonnerie de cor. C'était tout à fait ainsi que je me représente, joyeux et cependant gracieux et poli, ces banquets où le fils de Pierre de Bernardone tenait le sceptre de la royauté. Et certes, si le vénérable franciscain de Celano avait connu les buveries grossières et prosaïques des jeunes gens du Nord et de ceux-mêmes qui se vantent d'être fils des muses, je crois bien qu'il aurait porté un jugement moins sévère sur ces festins où la joie était légère et limpide comme ce vin jaune qui mûrit sur les penchants des monts ombriens. Mais il ne les a point connus et nous raconte ingénument que, entre tous ces débauchés, François était le pire, celui qui menait les autres et qui les perdait. De fait en fait, cette jeunesse dorée d'assises promenait sa folie. La nuit, on les entendait errer par les rues, chantant sous l'accompagnement de luttes ou de la viole, pareil à une troupe vagabonde de trouvères ou de jongleurs. Et en vérité, François allait si loin dans son admiration de la gaie science provençale qu'il s'était fait faire un habit de jongleur, mis parti pour s'en vêtir dans le cercle de ses camarades. Très probablement, le père de François avait de bonne heure admis son fils comme associé dans son commerce. Mais en tout cas, nous savons que le jeune homme avait à sa disposition de grosses sommes d'argent. Et tout ce qu'il gagnait, tout passait à ses plaisirs, si bien que de temps à autre, son père ne pouvait s'empêcher d'en faire la remarque. « On croirait vraiment, lui disait-il, que tu es le fils d'un gentilhomme, et non pas d'un simple marchand. » Et cependant, ni l'un ni l'autre des parents n'entendait interdire à François la vie qu'il vivait. Et quand des voisines bien intentionnées plaignaient Dame Picard d'avoir un fils aussi dépensier, la mère se bornait à leur répondre doucement. « J'ai l'espoir que lui aussi, un jour, deviendra un enfant de Dieu. » Au reste, on n'aurait pu lui reprocher rien de proprement mauvais. Il se montrait même tout à fait exemplaire dans tout ce qui concernait les rapports avec l'autre sexe. Et c'était chose bien connue parmi ses amis que l'on ne devait prononcer en sa présence aucune parole inconvenante. Et lorsque quelqu'un risquait une telle parole, aussitôt le visage de François prenait une expression sérieuse, presque sévère. Comme tous ceux qui ont le cœur pur, de tout temps il avait le plus grand respect pour le mystère de la génération. D'une façon générale, il était d'une décence parfaite dans ses manières. La seule chose qui affligeait ses parents était son attachement excessif pour ses amis, qui souvent, lorsqu'il était à table chez lui, le faisait se lever, dès qu'un compagnon l'appelait, et s'enfuir de la maison, laissant son assiette pleine pour aller le rejoindre. Sa prodigalité même avait un côté admirable, à savoir la manière dont elle s'étendait jusqu'aux pauvres. Le jeune François n'était pas de ces viveurs ordinaires qui n'ont jamais deux sous pour un pauvre, mais trouvent toujours facilement 100 francs pour aller dîner au champagne. Il aimait à raisonner de la façon suivante. « Si je suis généreux, disait-il, et volontiers prodigue à l'égard de mes amis, qui m'en sont très reconnaissants et qui souvent me rendent le lendemain ce que je leur ai donné la veille, combien plus j'ai de motifs pour offrir aux pauvres des aumônes que Dieu lui-même m'a promis de me repayer au centuple. » Il exprimait ainsi la grande pensée vitale du Moyen-Âge, traduction à la fois naïve et profonde de ces mots de l'Évangile, « Ce que vous aurez fait aux plus petits de mes frères, les pauvres, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Aussi le jeune François eut-il la sensation comme d'un coup de poignard au cœur lorsqu'un jour, étant très occupé dans la boutique paternelle où il avait à servir de nombreux clients, il s'aperçut qu'il venait de chasser un mendiant, presque sans se rendre compte de ce qu'il faisait. « Si cet homme était venu à moi de la part de l'un de mes nobles amis, de tel comte ou baron, sûrement il aurait obtenu cet argent qu'il me demandait. Or voilà que celui-ci est venu de la part du roi des rois et du maître des maîtres, et voilà que je l'ai laissé s'en aller les mains vides, et même en lui adressant de dures paroles. » De sorte qu'il résolut, depuis ce jour, de donner à tout homme qui viendrait lui demander quelque chose au nom de Dieu. « Per amor di Dios », comme disent encore aujourd'hui les mendiants italiens. Et peut-être est-ce cette bonté pour les pauvres qui lui avait valu l'étrange hommage que nous rapporte saint Bonaventure. Il y avait alors à Assise un original, un homme à demi fou, sinon tout à fait, qui errait par les rues et les ruelles. Et cet homme, chaque fois qu'il rencontrait François, se dépouillait de son manteau, l'étendait sur le sol et priait le jeune marchand de poser son pied sur ce manteau comme sur un tapis. Un autre original, à moins que ce fût le même, un de ces faibles d'esprit que le Moyen-Âge laissait aller en toute liberté, avait coutume de parcourir les rues d'Assise en criant sans arrêt « Pax et bonum, la paix et tous les biens !» Mais aussitôt après la conversion de François, cette voix se tut, de telle sorte que la légende a vu en elle quelque chose comme une annonce de la manifestation prochaine du grand saint qui allait essayer d'apporter aux hommes la paix avec tous les biens. Enfin, le jeune François semble bien avoir possédé de tout temps un sentiment très vif de la nature. Ce sentiment, aujourd'hui très développé dans notre vie comme dans notre littérature, c'est précisément en Provence que, un siècle plus tard, dans les œuvres de Pétrarque, pour la première fois depuis l'Antiquité, il allait trouver son expression littéraire. Mais nous le voyons déjà pleinement épanoui dans l'âme du demi-provençal qu'était François. La beauté des champs, le charme des vignobles, tout ce qui était plaisant aux yeux, tout cela le réjouissait, au dire de Thomas de Celano. Et nous ne risquons guère de nous tromper en considérant ce sentiment comme une part de l'héritage maternel du jeune homme. Toujours est-il qu'il constituait un élément essentiel de sa personnalité, et qui dans la suite ne devait s'atténuer que d'une façon toute passagère, durant la crise morale qui allait précéder sa conversion. De même que toutes les bonnes plantes ont à être taillées pour croître pleinement, il était nécessaire que ce côté du tempérament de François fût taillé et jusqu'aux racines, mais seulement pour pousser ensuite avec plus de sève et pour s'orner d'une plus riche couronne. Car ainsi que l'a dit un mystique allemand, aucun homme n'acquiert un véritable amour de la création si d'abord il n'a pas renoncé à cet amour par amour pour Dieu, au point que la création paraisse morte pour lui et que lui-même paraisse mort pour elle.